D'abord, un grand merci pour votre invitation dans ce beau pays, hein, le Liban. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Assira al-Nabawiya, en fait, c'est un des grands monuments historiques, un des grands monuments aussi discursifs, parce que d'abord, c'est une biographie romancée très réussie. L'un des traits en fait de l'historiographie, c'est que souvent les lecteurs ils préfèrent la lecture des vies des hommes illustres par rapport aux grands faits de l'histoire, et que souvent le parcours exceptionnel de telle ou telle figure illustre, eh bien il atteste mieux finalement de l'idéal que porte telle ou telle société. Et qui est condensé dans cette fine pointe de la micro-histoire. Hein. Donc le biographisme, la micro-histoire, peut éclairer donc davantage les déterminations collectives de telle ou telle société, plus que ne le feraient les exploits, en fait, les grands faits de l'histoire. Et donc, Sir al-Nabawiya, en tant qu'œuvre, c'est l'une des œuvres qui est les plus lues. Souvent, par exemple, dans les recensements des sites, elle vient juste après les mille et une nuits, au niveau de la consultation, au niveau de la lecture. Et quelque part, c'est en fait l'équivalent du cantique, des cantiques, hein, dans la littérature arabe. Donc, à chaque année, à chaque anniversaire de Maulid al-Nabawi, eh bien, c'est l'occasion finalement d'une espèce d'extase. D'extase et d'ébranlement finalement spirituel tout à fait inexplicable en dehors de l'expérience religieuse, hein, que cela génère. Donc, mon intervention porterait sur justement cette notion à l'intérieur donc du livre de la Sira al-Nabawiya, porterait sur le récit de la nativité, c'est-à-dire l'acte de naître, hein, du prophète, et à l'intérieur donc de ce récit de la narrativité sur deux séquences, hein. La séquence, donc, la venue au monde du prophète Mohammed et la vision prophétique de Amina, la mère du prophète. Donc le récit de la nativité a été livré dans toutes les religions. C'est un mode de réponse au complexe de la naissance caractéristique de toute culture. Le récit, donc le genre de la Sira qui nous intéresse ici, celui des commensaires. On était convenu de parler de Ibn Ishaq, d'arrêter finalement l'investigation au niveau de l'œuvre de Ibn Ishaq et de Ibn Hisham, étant donné qu'ils sont en quelque sorte les commensaires, hein, les plus proches finalement de faits historiques avec deux siècles d'intervalle, mais ce sont un petit peu les représentants dans le monde arabe de l'équivalent de l'histoire immédiate, hein, comme le serait par exemple Thucydide par rapport à l'histoire grecque, ou Polybe par rapport à l'histoire romaine, ou un autre équivalent, le cas de l'Ouaqidi par exemple, Marazi de l'Ouaqidi, relativement proche, comme le serait Joinville par rapport à l'histoire de Saint-Louis ou Villehardouin, hein, dans l'histoire donc de la conquête de Constantinople. Donc notre hypothèse, c'est que dans l'enregistrement de ce fait historique, à savoir donc le récit de la naissance du prophète, s'introduisent des éléments de spéculation qui mettent en scène des schèmes mythologiques et des topoi littéraires ritualisés. Déjà un constat, le récit, il cherche d'abord à communiquer une histoire qui a pour caractère d'échapper encore à la religion. La vision d'Amina, celle d'une narratrice qui est située antérieurement par rapport finalement à l'avènement de l'islam. Et donc elle est dans un contexte relativement pré-islamique. Et donc le récit, il est né, le point de départ, donc est là. Donc pour parler en termes de source de la narrativité, le sujet de notre colloque, donc ce récit biographique présente la caractéristique d'être aussi le lieu de transposition de schèmes mythiques et pré-islamiques. C'est une narration inspirée du fond commun de la culture et des croyances propres au musée imaginaire de l'Arabie. C'est un récit d'imitation et de métamorphose, où le mythos, le verbe sacré, se mêle au logos, le discours, construit selon un principe percolationem, c'est-à-dire par collation, par rapprochement, association, synthèse, réunion de diverses versions. Il importe des agrégats généraux et stables qui définissent ce genre littéraire commun à beaucoup d'œuvres donc, dans la réception de l'époque. C'est aussi une démarche constitutive de la symbolicité. Au-delà de la construction discursive, cette efficacité poétique est aussi idéologique. Elle est ce qui donne sa singularité à une doxologie, à un système de pensée nouveau, à savoir la nouvelle religion donc, de l'islam. Donc notre piste de lecture, en fait, on se tiendra ici à une analyse macro structurelle, d'un point de vue donc narratologique. Genette, par exemple, parle de la narratologie thématique, c'est-à-dire les contenus narratifs, et puis la narratologie modale, l'analyse donc du récit comme mode de représentation, pour interroger donc finalement ces deux figures représentatives dans la Syrah, et dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir donc l'acte de la naissance et la vision prophétique de Amina. Donc ce travail donc d'imitation interrogera deux axes, à savoir l'esthétique de la réécriture, hein, comme disait Blanchot, au commencement était le recommencement, et donc quelque part donc il n'y a pas de production ex nihilo, hein, et donc c'est l'histoire de la production, et même c'est une histoire de relais, et donc le deuxième axe, donc, une analyse de quelques traits de cette composition archétypale et donc de cette chaîne mythique qui nous permettrait de définir un modèle et bien sûr les simulacres qui le pervertissent par la suite. Donc, le récit suit une composition archétypale. Ce sont les motifs primordiaux du mythe de la nativité. De ce thème organiciste, nous choisirons donc deux figures prodigieuses. Le topos du sacrifice, ou de la victime épargnée par le ciel, et puis le topos de la vision des prodiges et des prodiges cosmiques. Donc, au début donc, du récit de la Syrah, il y a ce topos du sacrifice, hein, la dialectique de la mort et de la renaissance. Nadhr Abd al-Muttalib. La in wulida lahu ashratu nafar thumma balagu ma'ahu hatta yamna'uh la yanharanna ahadahum lillahi azza wa jal inda al-ka'ba. Donc le vœu d'Abd al-Muttalib. Donc le récit, il commence avec ce topos sacrificiel qui met en scène la victime épargnée par le ciel, qui en fait la cérémonie de passage de la mort à la renaissance, où on reconnaît la scène primordiale, c'est clair, de Abraham et son fils Ismaël ou Isaac. Donc, la leçon que l'on peut tirer de là, c'est que ce rituel du passage, après ce rituel du passage, Abdullah, le père du prophète, hein, qui est une sorte de préparation donc, du prophète, éprouve le même effroi d'Ismaël à se sentir bélier sur le bûcher. Donc, après l'épreuve, l'enfant de Abd al-Muttalib n'est que la présence survivante d'un sacrifice. Il n'est que le spectre de cette transformation avec laquelle il fallait vivre. Il subit une sorte de mutation en fait biologique. Après le sacrifice, il y a la marque de la lumière, al-ghurra, sur son visage, qui est le signe d'élection. Bah, on connaît l'anecdote de l'avance faite par la femme à Abdullah lors de la nuit de noces avec Amina, donc Ukhtu Warqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Uzza, etc. Il lui a fait des avances, il a dit je suis pressé, donc je dois suivre mon père. Le lendemain, il est revenu donc finalement lui dire bon, qu'en est-il de l'avance qui m'a été faite? Elle lui répond ceci: sur un autre plan, un autre registre, le prophète Mohammed, Quant à lui, il subit aussi ce passage similaire, en fait, incarné par la séquence de l'opération chirurgicale qu'il subit de la part des anges. La répétition, donc cette séquence, elle répète en fait cette dialectique de la vie et de la mort. Le récit des deux anges avec le prophète donc reprend en l'épurant ce topos de la victime épargnée par le ciel. Qal ja'ani rajulani alayhima thiyabun bayad fa'ajja'ani fashaqqa batni thumma istakhraja minhu shay'an fatarahah thumma raddahu kama kan. Donc de cette épreuve, le prophète il sort modifié génétiquement lui aussi. Hein? Juste après, l'ange dit à son donc partenaire, Zinhu bi'ashra min ummati fawazanani bi jusqu'à dire fawazanani bi alf fawazantuhum thumma qal zinhu bi alf fawazantuhum fa qal da'hu ank fa law wazantahu bi ummatin la wazanahum. Donc de cette épreuve, donc quel est-il le jeu du prophète? Quel est ce je suis? Donc son jeu à lui n'était plus qu'une infinité de jeux, de jeux. Donc on le compare à 10 hommes, puis à 100, puis à toute sa descendance, il les conquit tous. Donc ce spectacle de la naissance, en fait, gemellaire, il est né deux fois, donc une fois, donc biologiquement parlant, une fois, donc il a été repris, donc finalement, par cet acte de purgation dans le sens fort du terme. Il est lavé de l'intérieur, hein, ouvert et recousu, etc. Dans certaines versions plus tard, on va voir qu'il a été, cet acte de la renaissance a été fait plusieurs fois. Dans la version d'Ibn Arabi, par exemple, au IIIe siècle, donc à plusieurs reprises, il a été repris, ouvert, lavé, recousu, etc. Donc à chaque fois, donc une sorte de renaissance. Donc ce motif, donc de il y a une espèce de motif de la double paternité, à la fois mi-humain et mi-divin. Et donc donc cette double paternité, il remonte la chaîne mythique. Donc la scène du fils du prophète, donc il reprend la scène du père Abdallah. Tous deux, ils reproduisent la composition archétypale de l'agneau pascal depuis Abraham donc jusqu'à Jésus. Mais au-delà, il est le rappel de la bête historique qui retentit à travers l'histoire. Donc, en quelque sorte, l'expression de ce qu'il y a de saint en dehors de toute sainteté. Du côté de la mère, Amina ibn Bint Wahb, aussi il y a le même rite sacrificiel qui reproduit la mort et la renaissance, qui est synonyme d'élection et de renouveau. Dans certains textes nous parlent de la grand-mère d'Amina bint Wahb, qui a été sauvée par miracle de la mort. L'Ouad, hein, elle allait être enterrée vivante, et donc elle a passé cette épreuve de la victime qui a été épargnée par le ciel, parce que tout bébé, il retient le doigt de son père, et donc par un acte d'attendrissement non calculé, donc finalement elle a fini par être sauvée. Donc, après l'épreuve de la victime, elle devint une femme zarqa, une femme prophétesse, hein, et annonce de loin la vision. Quelque part, la grand-mère, elle annonce la vision épouvantable, dans le sens d'extraordinaire, que serait la vision d'Amina, sa fille ou la fille de sa sœur, parce que deux versions, c'est la tante de Amina qui a été zarqa. Donc il y a une sorte de docilité du point de vue narratif, donc il y a une sorte de docilité d'inspiration. Dictée peut-être par l'impératif théologique donc de l'islam d'acclimater la nouvelle religion à l'ancienne, qui est liée à sa vérité, à l'ancienne. Donc c'est une démarche aussi déconstructionniste selon le modèle donc transitionnel, à savoir le parallèle il fait voir, hein, mais en donnant à voir autre chose, ce qui donne le droit donc finalement d'ajuster et de citer et d'imposer sa propre version en vertu justement de ce privilège épistémologique que tient finalement l'islam, que j'appelle le privilège épistémologique de la précession. Il vient après, donc ça lui permet de jouer le rôle d'abord de lecteur, il réceptionne, mais en même temps il se constitue en tant que mesure absolue qui va permettre de jauger des discours intérieurs. D'ailleurs, l'un des attributs du prophète dans la Sira Nabawiya, c'est Al-Mahi, hein, donc ce travail de palimpseste, hein, effacer en écrivant dessus, hein, ce qui n'est pas encore écrit quelque part. Parce que la répétition, donc on répète jusqu'à un certain point où on produit quelque chose qui n'a jamais été dit. Donc Al-Mahi, il est l'héritier de ce qu'il veut dépasser et détruire. De là, donc finalement, la dimension révolutionnaire donc, du nouveau par rapport à l'ancien. Donc dans la vision, mon deuxième axe, la composition archétypale donc, de certains motifs narratifs. Donc, dans le récit, par exemple, de la naissance du prophète, donc l'acte de la purgation dont j'ai parlé, de catharsis dont j'ai parlé tout à l'heure, donc on passe du récit monoculaire à un récit quelque part mythique. Donc, c'est une structure romanesque fondée sur la répétition d'une même péripétie. D'où, par exemple, dans les deux sirahs, la chaîne des narrateurs. Donc la séquence donc de l'ouverture donc et de la catharsis du prophète, elle est racontée par le frère de lait du prophète, par le prophète qui, comme Jésus raconte dans le berceau, il raconte lui-même son histoire alors qu'il n'avait que 2 ans, et puis la version de Halima faite à Amina et etc. Donc toute la chaîne de transmission. Okay. Donc et dans le récit du prophète adulte aussi. Hein, mais là, commence à s'introduire déjà l'héritage de la mystique chrétienne du Haut Moyen-Âge, par exemple. Le motif du cristal, le motif de l'or, la gloire des symboles, etc. Bon, « Qalou, ya Rasulallah, akhbirna an nafsik, faqal da'watu Ibrahim wa bushra Isa. » Donc, il se situe par rapport à toute une tradition théologique, mais en même temps narrative. « Atani rajulan alayhi mathiya bun bayad, ma'ahuma tis » من ذهب مملوءة ثلجا أجعاني فشق بطني etc etc. Donc une répétition avec des variantes, tel est le principe organisateur donc du récit de la nativité. Le récit dit en le réitérant ce qui s'est produit une seule fois, mais progressivement se crée un récit où toutes les œuvres hagiographiques de l'Orient viennent se rassembler au petit bonheur. C'est le cas du récit de la vision prophétique de Amina. Il rend compte d'une expérience immédiate directe, née d'une découverte intérieure, d'un ravissement, d'une angoisse révélatrice. Donc, se crée un récit qui transcende la focalisation. C'est une sorte de transfocalisation, une focalisation multiple digne du roman moderne. Donc chez Ibn Ishaq, par exemple, nous avons un récit relativement bref, donc de la vision apocalyptique. Et donc la notion de la lumière, l'horizon lointain donc, qui s'ouvre. Donc, قصور الشام عالما بالمغرب عالما بالمغرب بالمشرق وبالمغرب وعالما فوق الكعبة. De chez Ibn Hisham, le récit est le plus développé. Là, on parle de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a reçu, hein, comme recommandation, mais de manière donc vague. Donc, فقيل لها إنك قد حملتي etc. فإذا وقع الأرض فقولي أعيده من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. Donc, des détails qui s'ajoutent. ورأيت حين حملت أن من أنه خرج مني نور رأيت به قصور بصرة من أرض الشام etc. Et donc ainsi d'œuvre en œuvre, le texte ne cessera de s'effilocher sous nos yeux à travers des discours et un vocabulaire différent. La vision d'Amina devient un champ de manœuvre, une vision interne donnée par pour une représentation en fait objective externe. Le jeu d'origine quelque part disparaît en tant que sujet d'énonciation pour désigner un jeu massif, celui de tous les amateurs possibles. Donc, la postérité donc, de cette vision d'Amina, donc, elle prend des dimensions qui dépassent le statut du sujet, notamment dans les livres dont j'ai parlé tout à l'heure, Ibn Arabi dans Muhadarat al-Abrar wa Musamarat al-Akhyar, ou Safadi dans Al-Wafi bil-Wafayat, ou bien l'œuvre de Imam Din Shafiri, Kitab al-Mawlid al-Nabawi, Al-Sharif, ou donc finalement, à partir de la version d'Ibn Abbas ou de la version de Ka'b al-Ahbar, nous sommes en face donc de l'éclat du visible, l'éclat visible de l'invisible, l'éclat intellectuel des versions du dedans, le ciel, les portes du ciel qui s'ouvrent, l'azur envoûté, en voûte qui est suspendue, le Dieu est l'escorte des forces divines, les tabernacles étincelants, les oriflammes, les trônes qui sont déstabilisés et roulants, le mutisme qui frappe les rois, les cercles de la terre et de l'onde, donc les anges au corps de lumière, aux ailes d'airain, etc. Donc les symboles, en quelque sorte, eux-mêmes parlent, ils sont et sont assez obstinés. Dans la scène, par exemple, mythique et assez représentative de la venue au monde, donc la naissance a lieu quand Abdul Muttalib est en train de faire donc sa prière autour de la Kaaba. Donc, قال ابن إسحاق فلما وضعته أرسلت إلى جدي عبد المطلب وكان يطوف بالبيت أنه قد ولد لك غلام فأتته فنظر إليه فأتى وحدثت بما رأت حين حملت وما قال لها etc. Donc nous sommes devant une sorte de trilogie légendaire, de convention qui s'inspire de la spiritualité ambiante, notamment le modèle donc de l'Égypte ancienne. Hein, il y a un texte qui parle de Rouhaniyat al-Haram, où il est question de trois pyramides. Hein. Une pyramide à l'est, une pyramide à l'ouest, et au milieu, une pyramide colorée. Donc, dans le récit donc, de la Nativité, il est question de trois pavillons. Hein. Donc, cette Alaman bil Mashriq, Alaman bil Maghrib, Alaman Fouqa al-Kaaba. Donc, une trilogie à mettre en parallèle avec. Donc la trilogie peut-être des pyramides, et donc la trilogie donc de la Sira est la garante d'équilibre. Donc comme quoi la Kaaba est le point d'équilibre. C'est une structure intellectuelle en fait mystique analogue à beaucoup de productions d'ordre théologique. Donc le topos de la trilogie légendaire, il a une fonction d'équilibre. On sait que le sens de Makkah veut dire équilibre, tawazun. C'est une mesure de l'espace, l'axe qui indique les directions. Il a une fonction d'équilibre et par extension un ajustoir qui régente la vie, la mort, la résurrection. Une sorte de balance de justice cosmique avec une inversion significative et la pour équivalent astral, les étoiles, la constellation des Gémeaux, Hizam al-Jawza. Aussi, donc, finalement, il y a toujours donc, ce balancement, cette oscillation entre la mort et la résurrection, qui sont les deux faces, en fait, de la spiritualité. L'hiver, l'hibernation d'un côté, l'été, le retour à la vie, la course spatio-temporelle entre l'Ihlat Shita ou Saif, entre Safa al-Marwa, etc. Donc, le récit serait en fait un récit. Un rite serait plus un rite, une scène rituelle. Nous sommes en présence d'une tradition mythique en vogue, reprise et accréditée au nom de la nouvelle religion. Les personnages eux-mêmes, ils épousent un moule préétabli, quelque sorte, de figure mythique. Ils jouent une fonction narrative dans un événement rituel. Le récit se calque un peu sur ce modèle spirituel ancien, notamment pharaonique dont j'ai parlé. Donc dans la spiritualité des pyramides, ces trois pyramides, ils sont représentés comme suivant. Hein. La grande pyramide, la pyramide de l'ouest, c'est une femme nue, au sexe découvert. De l'autre côté, nous avons Amina est en train d'accoucher. La deuxième pyramide, dans la symbolique pharaonique, un vieillard qui prie un encensoir à la main et qui fait une rotation autour de la pyramide donc de l'Est. On sait dans le récit de la Sira que en même temps Abd al-Muttalib était en train, le patriarche Abd al-Muttalib était en train de faire sa circumambulation autour de la Kaaba. La troisième pyramide, elle est représentée dans la symbolique donc pharaonique par un enfant à l'état qui n'a pas encore finalement atteint l'âge de la puberté, l'équivalent fait du prophète nouvellement né, une structure. Donc nous sommes devant un récit mythique qui est transformé en récit historique, réaliste, Donc, transformer la légende en histoire, c'est le propre de toute littérature religieuse, biblique notamment. Maintenant, dans la version apocalyptique de Amina, il a une dimension révolutionnaire. Et sur ce, je vais terminer. L'important dans la Sirah, comme texte fondateur, ce n'est pas qu'il soit le récit de faits historiques. C'est une forme narrative d'expression symbolique qui a pour fonction de transformer un agrégat en communauté, voire en communion. Donc c'est le propre de tout mythe, en fait, fondateur. Les étranges apparitions d'Amina, en fait, ça épouse le topos de l'apocalypse johannique, en quelque sorte. Fait d'elle, elle l'associe quelque part, par collation, à une des femmes Zarqawat, en fait. Autrement dit, une prophétesse, comme l'aurait été sa grand-mère, qui fut donnée au sacrifice et sauvée, mais surtout en raison du motif des oiseaux, le culte des oiseaux, hein, qui revient étrangement de manière récurrente et de manière itérative, finalement, dans le récit. Hamlfil, donc on connaît finalement l'histoire des griffons, hein, des oiseaux à tête de chien et donc avec des griffes d'aigle, etc. Donc le prophète a été purgé, hein, dans une version par des anges et une dans une autre par Karkaraïn, des oiseaux, hein, n'est-ce pas, qui l'ont purgé. Dans l'imaginaire de l'Arabie, il y avait un dieu qui s'appelait Mut'im at-Tayr. Hein. La tradition rituelle ou religieuse de l'Arabie était basée sur le principe Al-Muka wa Tasdiya. Wa ma kana du'a'uhum illa Muka'an wa Tasdiya. Al-Muka, c'est clair, Al-Muka, c'est une sorte d'oiseau, et donc finalement une référence claire et nette par rapport à ceci. Les femmes Zarqawat, dans la tradition de l'imaginaire arabe, ces prophétesses visionnaires, avait une relation très étroite avec le motif des oiseaux. Zarqa al-Yamama, al-Yamama, c'est la colombe, et en fait c'est elle-même, par extension, c'est elle-même en fait la colombe. Bint al-Khus, hein, et sa relation avec les oiseaux, al-Qata, hein, toujours al-Qata. Et dans la version de Ibn Arabi, c'est exactement, il y a cet ajout narratif où il est question de Toyor al-Qata, hein, donc Amina, exactement comme donc, l'histoire de Bint al-Khus, elle voit ces oiseaux donc al-Qata, et en même temps les oiseaux de paradis, donc Manaqiruha min az-zumurrudi wa ajnihatuha min al-yaqut, etc. C'est pour dire que le culte, donc finalement, des oiseaux associe finalement la figure d'Amina, donc finalement à ce registre des femmes Zarqawat. Amina donc épouse donc le topos d'une visionnaire qui tire de la méditation sacrée une vie nouvelle du monde, annonce la réforme et l'essor d'une nouvelle religion. Donc ce thème, d'un point de vue laïque, il a un fond dramatique qui tombe dans le lieu commun. C'est un très ancien thème romantique, celui du rêveur d'un autre monde qui prend ses impulsions impulsions pour des ordres qui viennent du ciel. Par le seul pouvoir donc des images, il invente un monde nouveau, dépasse les limites de l'espace, celles du temps, détruit les barrières. Il est la lutte de la liberté contre tout ce qui la réduit. Donc la gestation, donc la société en gestation qui se fait, qui se forme, donc cette culture qui passe d'un état de précarité et qui est en train de se construire, elle s'organise comme une geste épique. L'entreprise conquérante, religieuse, les terres, les mers mystiques, l'Est, l'Ouest, les visions apocalyptiques, le surnaturel, agrandi aux dimensions donc d'un drame cosmique, tout cela est mis à contribution justement pour annoncer l'avènement donc de la nouvelle religion. Le motif de la vision est le contraire donc du motif du regard. C'est une vie globale, la promesse de l'empire universel qui s'annonce. Donc Amina est le prophète en tant que narrateur. Ils s'abîment en fait l'un dans l'autre. C'est un peu dans la tradition arabique, la mère et son enfant c'était une seule unité. C'est un peu Isis et Anubis, Al-Khosla et son fils, Kabou et son fils d'Ishara, et puis plus tard Marie et son fils Jésus. Donc, la vision, quelle soit la vision prophétique, apocalyptique de Amina ou l'inspiration divine, le wahi, chez le prophète, c'est l'énergie en fait. Ils traduisent l'énergie nécessaire à une religion. Une vision qui déchire les voiles de la réalité naturelle, opère des brèches dans la raison chosiste qui caractérise l'existence affairée et païenne de Quraysh. Elle exploite sur le plan idéologique les séductions qu'exercent les solutions mystiques et les espérances visionnaires. Bon, le topos de l'eschatologie, de l'eschaton, la fin est là. On atteint l'extrême, le dernier homme, qui veut dire le surhomme en quelque sorte. Donc, c'est une espérance visionnaire que la société de Quraysh, trop occupée à posséder, parce que chez Quraysh, la religion était argent. Et l'argent, c'était la religion. Din ou tijara, tijaratu din. Et donc, et à la longue, Quraysh a laissé paresseusement donc, dépérir ce genre de vision. Le récit donc de la naissance de l'islam fait partie de cette littérature d'anticipation qui subit au long, qui substitue en fait au long travail des hommes les possibilités d'une accélération, une vision fulgurante, conduire dans un au-delà, dans l'espace et dans l'avenir, parce que la révolution, parce que la réforme sociale se négocie au coup de force de la découverte soudaine. Voilà, je vous remercie.